Raphaël Fougeret. Je suis doctorant au LEISA. Je travaille sur des questions d'écologie, d'évolution, de distribution des espèces.
Moi, je m'appelle Sandra Yanès. Je suis ingénieure d'études en sciences sociales et humaines, donc en anthropologie plutôt. Au LEISA aussi, dans l'équipe ethnique. J'ai travaillé sur la papillonite et la perception des habitants par rapport à ces crises de papillonite.
Où est-ce qu'on est ici, Raphaël ?
Ici, on est au bout de la piste de lance à Sinnamary.
La commune de Sinnamary, comme d'autres communes du littoral guyanais, elle est sujette à des pullulations de papillons cendres, où on parle aussi de papillonite. Le papillon cendre, c'est un papillon de nuit, mais qui n'est pas si inoffensif que ça, en fait.
C'est un papillon qui est globalement présent sur le plateau des Guyanes, qui s'appelle le papillon cendre. En nom scientifique, c'est Ilesia metabus. Les femelles possèdent des soies qui sont urticantes sur leurs abdomens. Le problème lors des booms de population, c'est qu'il y a des effervescences. Ces papillons sont attirés proche des lumières et dans l'effervescence relâchent leur soie autour. Pas mal de gens ici appellent ça des fléchettes urticantes et ça peut causer du coup des problèmes pour les populations locales. Et ça reste actif très longtemps, donc ça peut se déposer sur des vêtements, du linge à l'extérieur et rester actif très longtemps.
Et donc créer des démangeaisons, d'où la papillonite.
Oui, c'est ça, créer une réaction allergique sur la peau humaine. Et c'est ce qu'on appelle, la papillonite.
Là, on est sur la piste de lance, donc il y a quelques habitations qui sont assez éparpillées.
Mais il n'y a pas d'éclairage public à ce que je vois.
Voilà, il n'y a pas d'éclairage public et c'est pour ça que les papillons sont attirés par les foyers, donc les seules sources de lumière. J'ai fait des entretiens avec des personnes qui y vivent. Nombreux d'entre eux ont été attaqués en quelque sorte, mais en tout cas ils ont été victimes de grosses crises de papillonite. Et en fait c'est des nuages de papillons qui viennent chez eux.
Comment la population s'adapte à ce phénomène ?
Donc du coup les gens, ce qu'ils font c'est qu'ils, dans un premier temps, donc on essaie de boucher toutes les ouvertures de la maison pour éviter que le papillon puisse entrer. Disposer des moustiquaires sur toutes les fenêtres, sur le haut au-dessus des portes. Il y a aussi le changement des lumières pour éviter d'attirer les papillons. Donc là, c'est les lumières bleues et rouges, plutôt rouges, qui sont privilégiées. J'ai rencontré notamment quelqu'un, par exemple, lui, qui m'a dit qu'il avait mis un boudin de porte sous sa porte d'entrée parce que les papillons arrivaient à se faufiler dès qu'ils captaient la lumière de la maison. Donc du coup, lui, il a calfeutré. D'ailleurs, c'est un terme qui revient super régulièrement dans mes entretiens, le terme de calfeutré. Donc on voit bien comment les personnes s'enferment dans leur foyer pour le protéger et pour éviter en fait, ces nuisances-là. Mais ensuite, on ne peut pas éviter que le papillon vole, par exemple, sur la terrasse. Donc là, dans ce cas-là, ça va être des nettoyages réguliers. Donc tous les matins, nettoyer les surfaces, le sol, ne pas laisser son linge à l'extérieur, parce que ça, c'est vraiment ce qui est le plus dangereux. Et d'ailleurs, durant un entretien, une dame qui m'avait dit qu'elle avait eu des papillons qui étaient entrés. Durant des années, elle a retrouvé des fléchettes sur ses rideaux ou dans des endroits qui ne sont pas forcément accessibles, qu'on ne nettoie pas systématiquement derrière la télé, des endroits comme ça. Et qu'elle a retrouvé plus tard et qui ont du coup déclenché de la papillonite.
Et ces papillons, ils viennent d'où ?
Ce qu'on sait, c'est que c'est un papillon qui est présent surtout sur le littoral. On sait que ces populations sont impactées par l'urbanisation parce que ici, sur le littoral, il y a beaucoup d'habitants, la grande majorité des habitants de la Guyane. Ces papillons vont être attirés par les lumières des villes, des routes, etc. et vont se regrouper autour de ces lumières. Et c'est ce qui va créer ce phénomène de population qui impacte énormément la vie ici. Donc voilà, mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment ce papillon arrive à pulluler de cette façon. On a des pistes, il y a beaucoup d'espèces qui pullulent pour différentes façons. Le système de reproduction explosive chez les grenouilles, où un pic de reproduction à un moment de l'année, au début de saison des pluies, pour éviter les prédateurs. Il y a aussi des booms de naissance chez d'autres papillons qui sont liés aux migrations.
Et est-ce qu'on peut prévoir les moments de pullulation de papillons cendres pour s'y préparer ?
Du coup, c'est la question qu'on se pose tous, parce que les pullulations sont non cycliques et variables dans le temps. Par contre, quand il y en a une, on sait que, comme il y a beaucoup de reproducteurs à un moment donné, sur tout au long de l'année, ça va s'étaler et il y aura, pendant une année, beaucoup de pullulations. Tous les 3 mois, je crois que c'est le temps de génération. Par contre, quelle année ça va survenir ? Ça, c'est un peu inconnu et c'est très variable.
En vous écoutant, on se rend compte que c'est une véritable question de santé publique. Est-ce qu'il y a aussi des actions qui sont menées, notamment par exemple par la commune ou par la collectivité ?
Dès que des chenilles sont signalées, on sait qu'il va y avoir une pullulation. Là, il y a différentes choses qui sont mises en place. Ça a commencé par des grosses lumières placées au-dessus de bacs d'eau ou au-dessus du Sinnamary, de la rivière, pour que les papillons soient attirés et noyés. Ce qui a été fait ces dernières années, c'est que dans un camion, donc ils ouvrent la benne derrière, et ils prennent des brûleurs, donc ce qui est utilisé notamment en métropole, dans les vignes, pour réchauffer les terrains. Ils retirent la grille, ils mettent une lumière, les papillons sont attirés et sont directement brûlés. Après, au-delà de ça, il y a des couvre-feux qui sont mis en place. Donc, les heures de vol du papillon sont de 19h à 22h. Donc, c'est le moment où ils sont le plus actifs, ils vont être attirés par les lumières. Et c'est à ce moment-là que les éclairages publics sont éteints. Donc là, la ville est dans le noir. Et du coup, toute la vie communautaire est mise entre parenthèses. Les commerces sont également fermés. C'est un couvre-feu total. Tout est fermé et vraiment tout est mis entre parenthèses. Après, ce n'est pas un couvre-feu obligatoire. Si les personnes veulent sortir, peuvent le faire. Mais la moindre lumière attire. Quelqu'un allume son portable, les papillons volent autour des personnes. Donc c'est assez déconseillé et globalement, les personnes évitent de sortir. Et c'est uniquement durant ces périodes de crise. Une fois que la crise de papillonnite est passée, on réallume, la vie quotidienne reprend son cours et revient à la normale.
Et comment on peut expliquer que ce soit particulièrement dans des villes du littoral, comme Kourou, Sinnamary ou Irakoubo, qu'on retrouve ces phénomènes de pullulation ?
S'il est aussi développé dans ces zones-là, c'est par la nombreuse présence de plantes hôtes. Il pourrait aussi potentiellement être moins assujetti à divers prédateurs. Pour l'étude, on a montré que les oiseaux n'étaient pas forcément les prédateurs qui pouvaient réguler ces pullulations, mais il peut y avoir d'autres types de prédateurs, mais aussi des parasitoïdes ou des maladies qui peuvent réguler les populations. À l'avenir, du coup, ce qui serait intéressant d'essayer de comprendre, c'est comment arrive ce phénomène de pullulation. Est-ce que c'est bien lié à des variables environnementales ou des variables climatiques? Est-ce que c'est parce que, par exemple, cette année, il faisait super chaud et du coup, il y a eu beaucoup de papillons cendres? Mais aussi quels sont les habitats privilégiés. Donc on a démontré qu'il n'y avait potentiellement pas que les mangroves qui pouvaient abriter ce papillon, et du coup il pourrait être intéressant de mener des études un peu plus approfondies sur ces milieux en particulier. L'une des expériences à faire, c'est de tester la préférence sur quelle espèce d'arbre elle préfère pondre, mais aussi la préférence alimentaire des chenilles.